RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Suite de notre semaine spéciale à l'approche des élections européennes du 9 juin, on a déjà évoqué deux grandes thématiques de ce scrutin, à savoir l'écologie et l'agriculture. Demain, on parlera de la défense et la paix avec Jean-Baptiste Labeur. Mais s'il y a bien un thème qui s'impose comme l'un des sujets majeurs de la campagne, c'est l'immigration, pour les candidats comme pour les Français d'ailleurs, qui l'ont placé comme le premier enjeu prioritaire de ces élections devant l'écologie. Alors quel est le rôle de l'Union européenne en la matière? Que contient ce fameux pacte européen sur la migration et l'asile adopté hier? On va essayer d'y voir plus clair avec nos invités. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. Est-ce que c'est un thème qui peut déterminer votre vote lors des élections? Est-ce que vous pensez que l'Union européenne est vraiment utile sur cette question? Et que pensez-vous, généralement, de la solidarité entre les États membres pour accueillir les exilés? Venez témoigner et réagir au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook « Je pense, donc j'agis ».
Je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Alors penser, c'est bien. Agir, c'est bien aussi. C'est ce qu'on fait chaque jour dans cette émission. Notez que dans la seconde partie, on parlera des jeunes. Comment la jeunesse s'empare-t-elle du sujet de l'immigration au regard de l'Union européenne? Rendez-vous à 10h avec de beaux projets. Mais en attendant, comme tous les mercredis, j'ai la joie d'être accompagné de Madeleine Vatel. Bonjour Madeleine.
Bonjour Melchior, bonjour à tous. Oui, alors est-ce que l'Union européenne joue vraiment un rôle sur ce qui se passe en France? Ben oui, même si c'est pas toujours facile de le mesurer, mais pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, celui des migrations, ben la question des frontières, c'est un thème central. L'arrivée des exilés dans l'Union européenne, c'est un sujet sensible, parfois instrumentalisé, souvent caricaturé, mais c'est toujours une préoccupation pour les gouvernements et pour les citoyens aussi. La question, c'est protéger les frontières de l'Union européenne. Est-ce que ça signifie mieux accueillir les exilés? C'est en tout cas ce que sous-tend le pacte sur la migration et l'asile dont vous parliez, Melchior. Depuis presque 10 ans, toutes les institutions de l'Union européenne ont travaillé sur ce pacte. Le déclencheur, c'est 2015, des milliers de personnes qui quittent leur pays en guerre, notamment la Syrie. Les naufrages se multiplient, la Grèce n'arrive plus à faire face et l'Union européenne doit proposer une aide pour que ce ne soit pas uniquement les pays du Sud qui répondent à ces arrivées. Voilà, je résume un peu, mais en tout cas ce matin, il sera question de la solidarité des pays européens dans l'accueil des demandeurs d'asile, de la façon dont vont être examinées ces demandes, parce que ça change, et aussi du renforcement des contrôles aux frontières, et puis du respect des droits fondamentaux, ça en fait partie. Alors, qu'est-ce qui se joue dans le domaine des migrations à l'occasion de ces élections européennes? C'est ce que nous allons essayer de comprendre ce matin.
Oui, avec nos trois invités, Madeleine, qui nous accompagne jusqu'à 10h.
Oui, avec nous, Béatrice Gibelin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géographe, spécialiste de géopolitique et vous êtes directrice de la revue Hérodote. Avec nous également Daniel Guéry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-président de la commission des migrations des ONG, ancien président national et international de l'ACI, l'Action catholique des milieux indépendants. Et puis vous êtes vice-président du comité migration de la société civile au sein du Conseil de l'Europe, on y reviendra. Bonjour aussi à vous Guillaume Rossignol.
Bonjour.
Vous êtes directeur de JRS France, le service jésuite des réfugiés qui accueille et qui accompagne des personnes en demande d'asile et les réfugiés.
Merci à tous les trois de nous accompagner dans cette émission. Je rappelle que vous pouvez réagir au 04 72 38 20 23. Mais Madeleine, depuis le début de la semaine, et je l'ai dit en introduction, on essaye vraiment de comprendre aussi pourquoi le vote aux élections européennes a son importance. Et donc ce matin, en l'occurrence, avec le sujet de la migration.
Oui, et pour bien saisir pourquoi le rôle de l'Union européenne est majeur sur ces questions d'immigration et pourquoi ça concerne aussi la vie des citoyens français, je voudrais qu'on s'arrête sur ce qui relève de la compétence de l'Union européenne en matière de migration. Alors c'est un peu technique, mais si on pouvait résumer ce que décide l'Union européenne en matière de migration, qu'est-ce que vous en diriez, Daniel Guéry, peut-être sans trop entrer dans le détail, mais en quoi l'Union européenne voilà, est concernée par cette question d'immigration et en quoi ça finalement ça va rejaillir sur la France?
Bien, écoutez, merci pour cette question, merci pour votre invitation. Je crois qu'il faut d'emblée dire que cette compétence est une compétence partagée. Alors, c'est technique, mais ça veut dire que chaque pays est concerné. Il s'agit pour l'Union européenne de gérer, entre guillemets, l'immigration légale, c'est-à-dire faire que toutes les personnes qui vont entrer sur le territoire entrent de manière légale dans leur séjour, et donc ça concerne les ressortissants des pays tiers et notamment des pays des États membres. Il y a un point important à souligner pour nous, en tout cas, c'est que l'Union européenne est concernée par le regroupement familial. C'est dans les textes, hein. Donc, dans la mesure où c'est une compétence partagée, chaque pays gère lui-même le nombre de personnes qu'elle souhaite accueillir sur son territoire, et ça relève vraiment du national. Donc l'Union européenne essaye d'unir les pays, les encourage pour une harmonisation. Mais encore une fois, chaque pays reste quand même avec beaucoup d'autonomie. L'Union européenne aussi fait tout un travail de lutte contre l'immigration clandestine. Donc là aussi, c'est important. On en reparlera peut-être avec les questions de naufrage en Méditerranée, par exemple. Donc l'idée de la clandestinité. Elle gère également la réadmission dans les pays d'origine. Hein, donc avec un certain nombre de lois. Et on a vu à partir du traité de Lisbonne, donc c'était un peu au cours de ce traité qu'a commencé les règles partagées. Alors le traité de Lisbonne parle clairement de solidarité. Donc là aussi, c'est un terme sur lequel, je pense, nous reviendrons les uns et les autres. Et de plus en plus, donc, nous parlons de frontières extérieures de l'Union européenne. Mais tout de suite, je me permets d'ajouter un point, c'est que si l'Union européenne gère effectivement l'immigration légale, elle doit également respecter les droits humains. Et il ne faut pas qu'on oublie que chacun des pays de l'Union européenne, plus les autres pays, ont signé une convention des droits de l'homme. Et si j'ai le temps, je pourrais y revenir, puisque la Convention des droits de l'homme concerne les 46 pays du Conseil de l'Europe. Donc dans notre tête, c'est très important d'avoir l'Union européenne qui crée des lois pour l'immigration légale, mais elle est aussi avec des contrats, des contacts, des liens avec l'ensemble des autres pays européens. Voilà, très très vite, hein, c'est...
Oui, c'est très clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Daniel Garry. C'est très clair parce que c'est un sujet qui est évidemment énorme. Néanmoins, on va s'arrêter sur le pacte sur l'immigration et l'asile. Ça va nous permettre de comprendre ce qui a été voté hier et pourquoi, justement, de manière très concrète, les 27 pays de l'Union européenne ont réfléchi pendant 10 ans sur toutes ces questions pour arriver à ce pacte. Alors, simplement revenir à l'origine de ce pacte, c'est la crise des réfugiés, alors notamment syriens, en grande partie syriens, en 2015. De quoi est-ce que l'Union européenne a pris conscience à ce moment-là, Guillaume Rossignol? Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'Union européenne se dise, cette fois, on s'attelle à travailler sur ce thème parce que, cette fois-ci, l'afflux est plus important que d'habitude?
Bonjour d'abord, merci. Je crois que l'Union européenne, elle s'est rendue compte et tous les États se sont rendus compte que le phénomène migratoire, il est pas simplement national. Il y a des gens qui arrivent sur le territoire européen, qui bougent sur le territoire européen, qui ont des mobilités. Et donc, il est absolument nécessaire de se coordonner. Moi, j'étais le mois dernier à Bucarest pour la rencontre de l'ensemble des directeurs des JRS européens, donc le service jésuite des réfugiés qui est présent dans 22 pays. En Europe, dont un grand nombre de pays européens, et j'ai pu bien constater combien la question migratoire, il est important de la coordonner. Ce qui se passe à nos frontières de l'Est, ce qui se passe à nos frontières du Sud, ce qui se passe dans les différents pays, nécessite une coordination et une vraie solidarité. Un des enjeux qu'on peut poser sur ce pacte qui vient d'être voté, c'est précisément ce terme de solidarité. Je crois qu'il y a un vrai enjeu à regarder les mots et comment on les utilise. La réalité, c'est que la solidarité, ça devrait être un dispositif qui permet de se soutenir, de s'appuyer, de s'étayer, de s'aider lorsqu'on est tous ensemble. Or, aujourd'hui, on constate, et c'est une des grandes difficultés, et je crois que c'est lié au fait que le débat n'est pas très bien posé, c'est qu'aujourd'hui, ce mécanisme de solidarité ressemble davantage à un mécanisme de protection de chacun vis-à-vis des autres, plutôt qu'une véritable solidarité. Pourquoi ? Parce qu'on a posé comme postulat au départ de ce pacte que la vraie question, c'est une question de protection et de sécurité, et que pour atteindre cette sécurité-là, il faudrait nécessairement accepter de promouvoir ou des situations qui sont plus ou moins indignes, en tout cas qui peuvent être contraires à nos valeurs européennes. Voilà.
Alors,
je donne un exemple. Je donne un exemple sur cette solidarité. Dans le mécanisme européen de solidarité, en fait, vous pouvez accueillir des personnes migrantes qui arrivent sur un autre territoire, mais vous pouvez aussi payer 20 000 euros pour ne pas les accueillir. Vous pouvez aussi investir dans des pays tiers, notamment des murs, des barbelés, etc. C'est un mécanisme dit de solidarité dans le pacte, et ça pose vraiment question. Quand on tourne les mots à ce point, il faut s'interroger sur est-ce qu'on n'est pas en train de tourner aussi nos valeurs.
Oui. Alors, ce que vous rappelez, c'est finalement le contenu du pacte sur l'accueil. C'est-à-dire, soit un État va prendre en charge des personnes pour traiter la demande d'asile, soit s'il ne souhaite pas, il va donner une certaine somme. L'accord politique parle de 20 000 euros, effectivement, comme vous l'évoquiez. Ça veut dire qu'en fait, des États vont pouvoir dire, nous, finalement, aujourd'hui, on ne souhaite pas accueillir, on est prêt, en revanche, à payer. Et est-ce que ça veut dire aussi que les États comme la Grèce, l'Italie, l'Espagne, qui se sont sentis un peu seuls à un certain moment, vont avoir davantage de moyens pour accueillir ces personnes? Est-ce que c'est ça? Et est-ce que ça vous pose question, Guillaume Rossignol?
Ce qui pose question, c'est la logique globale de ce pacte, qui est une logique de faire en sorte qu'on, d'une certaine façon, on accueille moins. Les grands mécanismes, c'est les frontières extérieures, comme vous en avez parlé. Donc, on va construire concrètement des centres de détention à l'extérieur,
de rétention
à l'extérieur de l'Union européenne pour filtrer les arrivées. Ça veut dire concrètement, parce qu'il faut pouvoir le dire, que des enfants de l'âge de 6 ans vont être mis, après un parcours migratoire, dans un centre de rétention pour qu'on analyse leur situation. Ça pose vraiment question, ça aussi, premièrement. Et deuxièmement, un mécanisme de solidarité, puisque depuis une quinzaine d'années, on voit les difficultés qu'ont les pays extérieurs, la Grèce, l'Italie et d'autres, à accueillir. Et donc, comment on se répartit mieux les personnes sur les territoires. La réalité, c'est que le compromis qui a été trouvé ne permet pas aujourd'hui de résoudre cela. Puisque vous l'avez dit, on peut ne pas accueillir en payant, et pas simplement en payant des ressources à la Grèce ou à ces pays-là, mais aussi à des pays extérieurs pour qu'ils empêchent les personnes d'arriver. Voilà, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui dans le pacte la solidarité.
L'externalisation, vous avez raison, solidarité même. Est-ce que c'est l'équivalent de gestion des flux migratoires? Parce que finalement, on appelle solidarité entre États ce qui était, avec ce terme de flux migratoires, peut-être pas aussi valorisé en quelque sorte. On y reviendra. En tout cas, Béatrice Gibelin, je voudrais qu'on vous entende sur ce terme de frontière, parce qu'on va beaucoup en parler dans cette émission. Vous êtes géographe, la frontière, c'est presque le cœur de votre matière. Comment est-ce que vous la décririez? Est-ce qu'elle a changé au fil du temps?
Les frontières, c'est aussi objet de représentation. On va prendre les frontières de l'Europe. Pour certains, l'Europe est une forteresse qu'on ne peut pas intégrer parce qu'elle refoule, parce qu'on a des milliers de gens qui meurent en Méditerranée. Preuve donc que c'est bien une forteresse. Et puis, vous avez, au contraire, à l'opposé de ce discours, la frontière européenne est une passoire. On peut rentrer dans l'Europe extrêmement facilement. Donc, ces définitions de frontières, elles sont aussi très politiques en fonction du point de vue où vous vous placez. Frontex, qui a été mis pour contrôler les frontières extérieures, très longtemps, l'Europe n'a pas eu de frontières extérieures, puisqu'on ne savait pas où allait s'arrêter l'Europe, puisqu'on était capable d'intégrer des nouveaux membres, et on va sans doute encore intégrer des nouveaux membres. Jusqu'où peut aller l'Europe? Si la Russie n'avait pas tourné comme elle tourne en ce moment, on aurait pu se dire, l'Europe s'appelait jusqu'à Vladivostok. Toute la partie ouest de la Russie est très très européenne dans ses villes, dans son organisation, dans une forme de sa culture, dans sa littérature. Bref, c'est cette notion, si vous voulez, de frontière de l'Europe, elle se fixe aujourd'hui pour deux types de raisons. D'une part, à cause cause des migrations et d'autre part à cause de l'évolution qu'on voit en Russie et qui donc d'une certaine façon contribue tout au moins à l'Est, à fixer les frontières de l'Europe. Donc on revient beaucoup au thème de la frontière. L'Europe s'est constituée dans un premier temps sur la disparition des frontières, l'abolition des frontières. L'acte unique européen qu'avait voulu Delors, c'était pour que d'abord les biens et les personnes circulent librement. L'euro, c'était aussi, on a une seule monnaie, c'était donc moins de frontières que de faire l'Union européenne. Et c'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui, c'est le thème de frontières, et vous me dites vous-même, c'est le cœur de votre discipline. Non, c'est pas le cœur de ma discipline, c'est simplement dans un rapport de force politique et une inquiétude aujourd'hui qui fait que la frontière devient de nouveau l'enveloppe de la protection derrière laquelle on se met. On a repris la frontière comme protection, avec des droits de douane, avec des entrées contrôlées. C'est l'anti-Schengen, d'une certaine façon, quand on revient avec cette notion de frontière. Mais si j'ai encore un petit moment, c'est aussi parce que on est sur une montée très très forte de nationalisme populiste, et qu'on va voir sans doute aux élections du 9 juin, qu'il y a une réelle inquiétude face à cette immigration. Qu'est-ce qu'on fait ? On continue comme on faisait et on est aujourd'hui, si on regarde simplement la France, dans le vote, on va dire, entre Reconquête et le Rassemblement national, on atteint 40% des voix. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est valable, l'AFD en Allemagne, c'est Vox en Espagne, c'est la Ligue et Mélanie en Italie, c'est les Pays-Bas, c'est la Belgique, voilà, c'est la République tchèque, voilà, on peut les citer presque tous. Voilà. Donc il y a un problème politique important, c'est pas très sympathique à dire, c'est mieux d'être généreux et accueillant, moi j'aime mieux ça aussi, mais il y a un rapport de force politique et une situation qu'il faut regarder en face.
Il est 9h20 dans Je pense donc j'agis, et vous l'entendez ce matin, on parle de la question de l'immigration à quelques semaines des élections européennes, et vous avez la parole pour en discuter. Est-ce que c'est une thématique qui peut déterminer votre vote lors des élections, comme disait d'ailleurs Béatrice Gibien à l'instant? Est-ce que vous pensez que l'Union européenne est vraiment utile sur cette question, et que pensez-vous plus généralement de la solidarité entre les États membres pour accueillir les exilés? Venez témoigner et réagir au 04 72 38 20 23. 04 72 38 20 23.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Madeleine Vatel, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Et avec nos trois invités, Madeleine, dans cette première partie, Béatrice Gibelin, géographe spécialiste des géopolitiques et directrice de la revue Hérodote, Daniel Guéry, je rappelle que vous êtes vice-président de la commission des migrations des ONG, et Guillaume Rossignol, pardon, directeur de JRS France, le service jésuite des réfugiés.
Daniel Guéry, on revient sur cette question des frontières. Est-ce que ça vous interpelle, ce que nous disait Béatrice Gibelin ? Est-ce que les frontières reviennent en même temps que les peurs ? Est-ce que les frontières ont plus d'importance aujourd'hui ou pas tout à fait le même sens ? Qu'est-ce que vous diriez ?
Je pense qu'il faut être très attentif à ce qui se passe en réalité aux frontières. Comme l'a dit M. Rossignol, la construction de centres extérieurs à nos frontières est dramatique. Hein. Même si on peut réjouir...
On précise simplement les centres, quand vous parlez de centres, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui arrivent de l'extérieur de l'Union européenne, qui souhaitent y entrer, et désormais ces centres de rétention qui existent un peu partout, d'ailleurs en France et puis dans d'autres pays, seront cette fois-ci davantage sur les frontières extérieures de l'Union européenne. Ça déplace les centres d'examen et de contrôle des demandes qui sont faites par ces personnes qui veulent entrer dans l'Union européenne. C'est ça, hein, je précise simplement, parce que c'est la
absolument.
Grosse différence avec ce pacte.
Absolument. Et en plus, comme vous l'avez vous-même dit tout à l'heure, on va valoriser l'externalisation, ce qui est contraire aux lois européennes, puisque la Cour européenne des droits de l'homme a déjà montré qu'il y avait un souci. Donc ce retour, si vous voulez, sur la question des frontières est vraiment complexe. Et je ne pense pas qu'on ait une avancée. Mais moi, je voudrais donner des exemples très concrets. Deux exemples concrets. parce que la règle de Genève dit qu'on a l'obligation d'accueillir des réfugiés. Il faut savoir que, par exemple, en Finlande, les postes frontières du nord de la Finlande, qui vont sur la Russie, ont été fermés sur plusieurs centaines de kilomètres. Ce qui fait que des personnes en détresse ne peuvent plus demander l'asile. C'est impossible, puisque les frontières sont complètement fermées. Mmh. Et voilà. Donc ça, c'est un vrai problème. Ça relève des droits humains. L'autre exemple que je veux donner, c'est que, et ça relève des lois de l'Union européenne, on a accueilli de manière extrêmement favorable et on a facilité l'accueil des personnes ukrainiennes. Donc, sachons que si une maman ukrainienne avec des enfants ukrainiens donc était et mariée avec un homme qui n'est pas ukrainien, eh bien, toute la famille passe la frontière tranquillement. Quant à l'homme, au papa, eh bien, il reste en dehors de la frontière, de cette frontière dont on parle. Et donc, la question du regroupement familial, dont je parlais tout à l'heure, ne fonctionne pas. Donc, on va avoir des lois qui sont extrêmement restrictives au niveau des frontières. Et la rapidité, puisqu'il va falloir qu'on étudie les dossiers extrêmement rapidement, la rapidité qui est demandée va mettre de côté énormément de personnes parce qu'on n'aura pas eu le temps d'avoir un avocat, on n'aura pas eu le temps d'avoir des traducteurs, etc. Donc on peut se réjouir.
Là, vous faites allusion à une partie du pacte qui justement accélère la procédure d'étude, soit en déterminant certains pays types desquels on va dire non, si vous arrivez de ce pays, c'est définitivement non, quelle que soit votre histoire.
Ouais. Je crois qu'une question qui se pose, c'est celle du modèle qu'on veut. C'est celle du modèle qu'on veut. Aujourd'hui, le modèle qui est proposé, c'est un modèle qui prévoit d'une part de conventionner avec des pays tiers pour qu'ils fassent un travail dont on sait qu'il n'est pas respectueux des droits, donc de nos valeurs. Et ce travail-là, ça n'a pas été évalué. En 2015-2016, on a conclu des accords avec la Turquie pour que la Turquie, on a payé la Turquie très cher, pour que la Turquie s'occupe de protéger, entre guillemets, nos frontières extérieures avec des violations de droits humains importantes. On a pérennisé et même accru ce mécanisme-là en signant des accords avec d'autres États comme la Mauritanie, comme la Tunisie récemment, comme l'Égypte. On sait que le sort des personnes migrantes dans ces pays-là est absolument dramatique. On sait
c'est-à-dire
aussi...
C'est-à-dire qu'en fait, l'Union européenne dit... À partir du moment où vous avez des personnes réfugiées qui souhaitent entrer dans l'Union européenne, des personnes, pardon, exilées qui souhaitent entrer dans l'Union européenne, on vous demande à vous, la Turquie, l'Égypte, la Tunisie, de les accueillir dans des camps.
En fait, on va payer ces pays. Voilà, on va payer ces pays-là pour qu'ils gardent ces personnes-là chez eux et qu'ils les empêchent d'arriver jusqu'à l'Europe. Au prix de situations absolument dramatiques. On connaît tous, parce que ça a été documenté, la situation des personnes quand elles traversent la Libye. On voit depuis quelques jours ce qui se passe en Tunisie et ça fait déjà beaucoup plus que quelques jours. Et ça pose la question pour nous, est-ce qu'on assume, nous, Européens, le fait de payer de l'argent à des États qui n'ont pas du tout nos valeurs pour qu'ils maltraitent ces personnes-là ? Sur le temps long, ce qu'on voit, c'est qu'en plus, on le paye cher. La Turquie de Erdogan, entre guillemets, elle joue avec ce chantage-là. Donc, au motif qu'il faudrait se protéger, on renonce à nos valeurs et ça ne marche pas.
Et est-ce qu'on pourrait vous rétorquer que ces personnes ont réussi à fuir leur pays quelque part ? Elles ne sont plus dans le pays dans lequel elles étaient en danger. Est-ce qu'on peut vous rétorquer ça ?
Sont dans un autre danger. Donc, je veux dire, on est passé d'un danger à un autre. Et si on a pu même survivre ?
L'enjeu de ces centres de rétention, l'enjeu de cette externalisation des frontières, c'est que les personnes ne pénètrent pas sur notre territoire. Ça pose une vraie question au regard du droit d'asile. Le droit d'asile, c'est protéger des personnes qui méritent une protection, qui nécessitent une protection. Et d'ailleurs, on le leur reconnaît.
Alors justement, Daniel Guéry, je voudrais que vous reveniez sur l'exemple que vous donniez de la Finlande qui avait décidé de fermer ses postes frontières. Est-ce que l'Union européenne peut autoriser cela ?
Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une compétence partagée et donc les pays ont effectivement la possibilité. Je vous rappelle, si vous avez bien regardé, enfin je nous rappelle mutuellement que les pays de Visegrad ont décidé, eux, de s'exclure du système. Hein, c'est-à-dire qu'ils ne payeront pas et ils n'accueilleront pas. Hein, donc, je parle de la Hongrie, etc. Et ils sont toujours dans l'Union européenne.
Béatrice Giblin, en quelques secondes, parce qu'on va marquer une pause.
Oui, je voulais simplement rappeler que s'il n'y a plus qu'un seul poste ouvert en Finlande, c'est parce que la Russie utilise pour, comme moyen de pression pour faire passer des immigrants, comme elle a essayé de le faire avec la Biélorussie sur la Pologne, de façon massive. Il y a un projet géopolitique russe qui est de déstabiliser l'Union européenne. Et c'est un projet sur lequel elle met des moyens importants. Donc il faut savoir, effectivement, entre deux mots, choisir le moindre. Je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'on ne reste pas des valeurs qui sont des valeurs fondamentales et des valeurs... Certains, en particulier à l'extrême droite, se revendiquent d'une Europe chrétienne. Et bien évidemment, ils ont une attitude qui n'a rien à voir avec ça. Mais il faut bien voir qu'on est dans un jeu de rapport de force dont nous devons tenir compte. Sinon, il n'y aura plus d'Union européenne du tout.
Et on va continuer d'en parler dans quelques minutes avec... vous trois et bien sûr vos réactions au 04 72 38 20 23 pour nous parler d'immigration et des élections européennes. À tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Madeleine Vatel, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
9h30 dans Je pense donc j'agis. Est-ce que l'immigration est une thématique qui peut déterminer votre vote lors des élections? Venez témoigner, réagir au 04 72 38 20 23 ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Sous la peau, de la chair et des os, que nous avions du mal à protéger. Là-haut sur la falaise, les vautours attendaient, c'était chacun son tour, rien n'a changé. Notre histoire est si belle, et le monde est si beau. Essayons de faire voler nos vélos. L'aventure est si courte et le ciel est si grand. Essayons de bien prendre notre élan.
Nous étions des humains. C'était Mickey 3D pour vous accompagner en ce mercredi matin.
Je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Semaine spéciale dont je pense donc j'agis à l'approche des élections européennes. On évoque ce matin la question de l'immigration avec nos trois invités, Béatrice Gibelin, Daniel Guéry et Guillaume Rossignol. Également avec vos appels au 04 72 38 20 23. On a justement Mathieu, vous êtes à Rennes. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, la solution n'est certainement pas dans la régulation de l'immigration parce qu'on ne pourra jamais empêcher les gens de bouger. Mais dans le développement des pays, la paix. Et le problème, c'est que nos pays sont, avec l'émotivité des populations, veulent partir en guerre, quoi. Et la France est le deuxième vendeur d'armes au monde. Donc, en plus, on permet aux produits de passer et pas aux gens de passer. Alors, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'en fait, les produits, eux, qui nuisent à notre économie, et puis ils ont le droit de passer. Et pas les gens, c'est n'importe quoi, c'est le monde à l'envers.
C'est le monde à l'envers. Ben merci beaucoup Mathieu d'avoir dit ça. Qu'est-ce que vous en pensez Guillaume Rossignol? Est-ce qu'il a raison Mathieu de rappeler ça?
En fait, pour moi ça fait résonner avec la première partie du débat. On a beaucoup parlé de protection, de sécurité, etc.
Oui.
Je crois que ça repose la question de notre modèle en fait. Et il y a un autre modèle que simplement la sécurité, la protection, la défense contre l'autre. Il y a celui de l'accueil. Moi je peux témoigner dans ce qui se vit au quotidien dans toutes les équipes JRS en Europe qui sont situées différemment, qui accueillent, qui accompagnent des hommes, des femmes, des enfants de nationalités différentes, dans l'urgence ou dans le temps long, dans l'intégration ou dans l'hospitalité citoyenne. En fait, c'est un immense défi. Mais quand on se donne les moyens, en termes d'engagement personnel, etc., de les vivre, d'une part, ça marche, et partout. D'autre part, ça fait du commun. On se pose la question de comment retrouver, faire une société européenne. Eh ben, accompagner des personnes migrantes, moi je constate tous les jours que ça crée du commun entre les Français eux-mêmes. Voilà. Et puis, ça nous fait grandir. On envoie nos enfants étudier à l'étranger, comprendre d'autres cultures en disant ça les fait grandir. En fait, on a chez nous la chance de pouvoir accueillir des personnes qui peuvent nous faire grandir. Alors, c'est pas du tout une utopie de dire ça, puisqu'on est vraiment dans la réalité concrète. Quand on accueille chez soi au quotidien des personnes, je peux vous dire qu'on n'est vraiment pas dans l'utopie. Mais cette culture-là de l'accueil, en fait, je crois que c'est elle qui va nous garantir, par ses valeurs, notre sécurité, notre vivre ensemble. Donc il s'agit d'une certaine façon de changer de lunettes, d'arrêter de regarder la peur, la sécurité, la protection et de se dire, ben, en fait, si on construisait ensemble, bien sûr c'est un défi, bien sûr c'est difficile, mais au fond ça marche. Voilà.
Guillaume Rossignol, qu'est-ce que vous pensez des pays qui sont déterminés comme n'étant pas, dont les habitants ne sont pas les bienvenus? Est-ce que vous diriez qu'il faut totalement faire sauter cette liste de pays et que toute personne qui, après tout, demande à entrer dans l'Union européenne doit se voir les portes ouvertes? Parce que quand on vous écoute, vous privilégiez effectivement cet accueil fait dans les règles avec des moyens et avec un accueil complet, en quelque sorte. Aujourd'hui, l'Union européenne, elle a établi des listes de pays dont les habitants ne sont pas les bienvenus, soit parce qu'on considère qu'ils peuvent rester vivre dans leur pays, soit parce que, au fond, il y a des quotas, etc. Donc, qu'est-ce que vous diriez sur cette migration? Est-ce que les portes doivent être totalement ouvertes?
Alors, deux choses. La première, c'est que moi, je suis pas du tout un no-border et je pense que c'est important d'avoir des frontières et d'avoir des règles pour entrer et sortir. C'est ce qui fonde aussi notre fonctionnement. L'Union européenne, elle a pas fixé des pays pour lesquels les gens sont indésirables. La réalité, c'est que quand on parle de l'asile, c'est des personnes qui demandent la protection. Et donc, il y a des pays pour lesquels, ils sont plus ou moins en guerre. Ça veut pas dire que ces personnes-là, de ces pays-là, ne peuvent pas demander l'asile sur un certain nombre de fondements, de discrimination, de persécution ou autre. Ça veut dire que statistiquement, en réalité, ils ont moins de chances de l'obtenir parce que la situation de leur pays est moins détériorée. Il est évident que quand on compare l'Afghanistan, par exemple, dont on connaît la situation dramatique avec d'autres États, elle n'est pas la même. Pour autant, il faut faire très attention de considérer chaque personne individuellement et singulièrement dans son histoire. Il y a un vrai danger à dire, puisque vous venez de ce pays-là, vous n'avez pas le droit de rentrer. C'est tout à fait contraire à ce qu'est le droit d'asile. Voilà.
Est-ce que vous diriez que le droit d'asile, il est remis en cause par ce pacte sur la migration et l'asile ? Guillaume Rossignol ou Daniel Guéry. Oui.
Globalement, je dirais oui. Parce que si on regarde, comme l'a dit M. Rossignol, si on regarde globalement et que l'on ne va pas vers la personne, la dignité de la personne, effectivement, il est vraiment fondamental pour moi de permettre un regard et une étude liée aux personnes. Et le droit d'asile, c'était ça. Enfin, c'est ça qui est donné. Et on n'est pas dans les généralités. Enfin, moi, je voudrais témoigner aussi de manière positive sur un certain nombre de choses qui se passent. Alors, je comprends très bien la question de notre auditeur qui se dit bon, c'est très facile d'envoyer des objets, d'envoyer des armes, etc. Là, ça passe la frontière facilement. Bon, et c'est vrai que pour les personnes, c'est différent. Alors, ne soyons pas naïfs. Je suis un peu comme mon collègue. On va pas accueillir tout le monde. On va écouter tout le monde, on va regarder le dossier de chacune des personnes. Et je suis témoin je participe à un certain nombre de commissions au Conseil de l'Europe où il y a des parlementaires européens qui sont aussi de l'Union européenne. Et il y a des personnes extrêmement sérieuses, extrêmement humanistes qui veulent traiter les choses de manière, humaine et surtout juste. C'est pas la question de l'humanité, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais juste par rapport aux lois et juste par rapport à l'humanité et à la dignité de la personne. Et il y a eu, par exemple, pour être très concret, il y a eu une commission qui s'est rendue à Calais pour regarder ce qui se passait et qui a dénoncé un certain nombre de points qui n'allaient pas dans l'accueil des personnes. Donc, nos politiques sont aussi des personnes responsables. Donc, ne généralisons pas non plus. Mais ne soyons pas naïfs, encore une fois, dans notre vote. Et allons regarder comment, au niveau européen, on va traiter les choses. Est-ce qu'on va se mettre avec l'AFD de l'Allemagne qui discrimine. Enfin, il faut qu'on
L'AFD, c'est le parti politique d'extrême droite, oui.
Voilà. Donc chaque personne a sa dignité, et le dernier texte du pape le dit bien, une dignité qui est fondée dès la naissance, et dignité de la personne à tous les niveaux, dans tous les cas, et voilà, ça ne se discute pas.
Alors, on peut aussi s'interroger, vous évoquiez au début la question de la solidarité entre les États. Béatrice Gibelin, cette solidarité entre les États, est-ce qu'elle nécessite aussi de considérer les frontières autrement, de se dire qu'on est dans ce grand ensemble-là? Est-ce que ça c'est un effort à faire pour les Européens aussi, de considérer un espace européen autour d'eux?
C'est un effort à faire pour effectivement l'ensemble des Européens. Les seuls qui, au fond, voient un petit peu cet ensemble, ce sont les jeunes qui profitent d'Erasmus. Eux, ils circulent, ils vont 6 mois par-ci ou 6 mois par-là. Ils ont peut-être plus conscience que d'autres que ça peut former un ensemble. Mais on a 27 États avec des histoires très différentes, qui se sont fait la guerre pendant très longtemps. Certains ont été sous des régimes communistes pendant 70 ans. Certains ont vu leur territoire complètement se réduire, comme dans le cadre de la Hongrie. On va s'arrêter quelques minutes sur la Hongrie. Il ne s'agit pas pour moi de défendre, il s'agit simplement d'essayer d'expliquer. La Hongrie était un grand territoire qui s'est trouvé extrêmement réduit après la Première Guerre mondiale, avec d'ailleurs l'appui des Français, Clémenceau ayant joué son rôle là-dedans, et avec se retrouvant avec une grande partie de sa population hors de ses frontières, particulièrement en Roumanie, mais aussi en Slovaquie et aussi un peu dans l'ex-Yougoslavie. Bon, donc on a, j'allais dire, un traumatisme profond en Hongrie. Et on vit avec ça. Et cette idée d'être devenu quelque chose de petit, quand on a été un empire austro-hongrois qui a dominé une partie du monde européen, tout au moins dans sa partie orientale, c'est je reviens sur le terme de traumatisme, c'est extrêmement important. Et en plus, aujourd'hui, il y a une émigration vraiment importante des jeunes hongrois, surtout diplômés. qui s'en vont pour un autre avenir et qui circulent évidemment en Europe. Donc il y a à la fois une chute démographique, un vieillissement de la population et l'idée vraiment d'une menace peut-être de disparition. Et c'est là-dessus que joue Orban. Si vous regardez le vote à Budapest, c'est pas un vote pour Orban, c'est toujours un vote plutôt favorable à l'Europe, à l'ouverture. Mais dans les petites villes, dans la campagne, là où on a une population vieillissante, on a un vote nationaliste de protection et où on veut s'enfermer. Mais dans le même temps, Orban fait venir une population étrangère, en particulier asiatique, vietnamien. Il veut pas de maghrébins, il veut pas de musulmans dans la représentation. Mais il faut se souvenir que l'Empire ottoman a occupé la Hongrie. Hein, c'est si on a les fameux bains de Budapest dont tout le monde se souvient quand il y va faire un tour, c'est un héritage aussi d'une culture qui est une culture ottomane. Ça s'est arrêté à Vienne, l'Empire ottoman. Donc ils veulent pas de musulmans. Alors ils veulent bien des Vietnamiens, ils veulent bien des Asiatiques parce qu'il en a besoin. Et il est même assez fourbe pour en fait accueillir une partie des réfugiés dont il dit qu'il ne veut pas. Parce que c'est absolument impératif pour sa propre économie. Mmh. Mais surtout, il ne faut pas que ça se sache. C'est pour ça qu'il faut le dire.
Oui. On continue de vous entendre au 04 72 38 20 23. Après Mathieu, nous avons Christiane avec nous. Bonjour Christiane.
Oui, bonjour.
Vous êtes à Grenoble. Allez-y.
Exactement, oui, je vous écoute depuis un petit moment là. Et je me dis, bon, l'immigration, et c'est merveilleux, ça nous apporte, ça nous enrichit, des échanges, tout ça. Bon, c'est vrai qu'on peut y trouver des choses positives et heureusement. Et moi, je les vis vraiment puisque je suis beaucoup en contact avec des personnes qui sont arrivées en France. Mais je crois qu'en les entendant, il faut quand même se dire qu'à la base, c'est un drame l'immigration. C'est un drame pour eux et ça peut devenir un drame pour nous parce que, voilà, il y a après un phénomène d'incompréhension, de saturation. Et moi, je trouve qu'il faudrait remonter plus haut dans la politique, si on peut dire, notre politique vis-à-vis de ces pays qu'on dit en développement. Donc l'aide au développement, elle va à qui ? Elle va à des dictateurs, à des gens corrompus qui n'ont rien à faire de leur peuple. On paye ces dictateurs pour un peuple qui est obligé de fuir. Mmh. Donc c'est vraiment la honte et le drame. Ces gens-là, ils viennent pas parce qu'ils aiment la France. Ils viennent parce qu'ils n'en peuvent plus de vivre dans un pays sans avenir, sans soins, sans éducation, sans route, sans avenir pour leurs enfants. Ben, qu'est-ce qu'ils font ? Ils risquent le tout pour le tout, mais c'est un drame pour eux.
Et on va en parler avec nos invités. Christiane, merci beaucoup et vraiment pour ce témoignage, parce que voilà, ça nous permet d'aborder un autre sujet. Guillaume Rossignol, je me tourne vers vous. Ma question va être un peu cash. Est-ce qu'on peut empêcher l'immigration ? C'est-à-dire, est-ce que l'Union européenne peut aller aider ses voisins à empêcher cette immigration au vu de tous ces problèmes soulignés par Christiane ?
C'est tout à fait impossible d'empêcher l'immigration. Elle a existé de tout temps, elle existera de tout temps. Et sans être du tout alarmiste, les projections montrent pour toute une série de raisons qu'elles vont continuer, voire s'accroître. Moi, je voudrais faire un petit pas de côté et rappeler, je suis très sensible à ce que vient de dire votre auditrice, puisqu'on le rencontre, ce récit-là et ces souffrances-là dans notre accompagnement au quotidien. Je voudrais faire un petit pas de côté pour sortir d'une vision trop franco-française de ce que c'est que la migration. 75% des personnes qui migrent, qui sont déplacées forcées dans le monde, elles migrent dans leur propre État, chez elles, et puis ou dans l'État qui est absolument limitrophe.
Donc les personnes qui arrivent déplacées.
Les personnes qui sont déplacées de force, la plupart sont déplacées dans leur propre pays. On peut prendre l'exemple de l'Irak, du Soudan, enfin c'est vrai sur tous les continents. Les personnes qui arrivent jusqu'à nous, c'est une infime minorité des personnes qui sont obligées de fuir. Et je crois qu'il faut prendre cela en compte quand on entend des discours de dire on ne peut pas accueillir, on ne sait pas accueillir plus, etc. Je crois qu'il faut regarder à l'échelle du monde. La chance qu'on a à JRS, c'est qu'on a un réseau mondial et que donc on peut bien le mesurer et l'entendre. Mon prédécesseur, il est aujourd'hui directeur de JRS en Irak. Quand j'entends ce qu'il raconte, bah, ça nous ouvre les yeux. Donc c'est un phénomène mondial. On en reçoit un petit nombre. Et d'une certaine façon, on peut en prendre notre part. Et quand on le compare au coût de la non-Europe, il y a une étude qui a été faite en 2018 par le service de recherche du Parlement européen qui a évalué le coût de ce qu'ils ont appelé la non-Europe, c'est-à-dire les dysfonctionnements dans notre coordination entre les pays européens, le coût des gardes frontières parce qu'on a un régime dysfonctionnel à nos frontières, le coût de la rétention, etc. C'était évalué à l'époque à 49 milliards d'euros par an. Voilà. Donc c'est à mettre en perspective aussi à un discours qu'on peut entendre qui est de dire on ne peut pas accueillir tout le monde parce que ça coûte trop cher. Je crois qu'il y a vraiment une question de modèle à examiner là.
Béatrice Gibelin.
Oui, il y a le discours auquel je souscris qui vient de tenir par M. Rossignol, mais il y a aussi qu'il faut tenir compte de ce qui n'est pas dans la rationalité. Vous avez raison. Quand on met les chiffres, ce qu'on dépense pour fermer la frontière, ce qu'on dépense à Frontex, combien on a remis 2 milliards de plus, ça va être un puits sans fond et on n'y en aura jamais assez. D'une certaine façon, vous avez parfaitement raison. Et puis, il y a ce que ressentent les citoyens à l'échelle de l'Europe, hein, je le redis. Il faut s'interroger. Pourquoi on en est là? Et pour des raisons différentes. J'ai pris le cas de la Hongrie. On pourrait voir les choses différemment à d'autres endroits. Mais on n'est plus dans la rationalité à ce moment-là. On est dans l'émotion, on est dans le sentiment. Et à partir du moment où on est dans cette géopolitique des émotions, c'est très difficile d'amener à la raison. Et c'est là où, effectivement, il y a un rôle des politiques qui est majeur, mais pas seulement des politiques, des médias. Votre radio essaye d'avancer là-dessus avec raison et mesure. Mais quand vous avez des chaînes d'infos qui font toute la journée du battage sur l'immigration, sur la délinquance, sur la sécurité, c'est extrêmement lourd. En ce moment, les narcotrafiquants cette attaque qu'il y a eu sur le fourgon avec un narcotrafiquant dedans, avec deux policiers morts, mais c'est une catastrophe. Pour les gens raisonnables qui essayent de dire les choses, c'est une catastrophe. Je veux dire, l'extrême droite n'a pas besoin de faire campagne. Ça fait campagne pour eux, ce genre de choses, sur ce thème de la sécurité. Et comment on répond à ça? Parce que c'est pas en leur disant, vous savez, ça marche bien, on les accueille, ça se passe bien. Et puis ils vont vous citer, ah oui, mais moi dans mon coin, justement, ils ont fait ça, et puis ça s'est pas bien passé. Et ça fait des ravages. Je dis que c'est simplement très, très difficile. Oui, effectivement, l'immigration va continuer. Elle n'a jamais été aussi importante. Il y a 1 150 000 personnes qui sont rentrées en Europe en 2023 de façon légale. Ajoutons les illégaux là-dedans. Donc on se trouve, et c'est encore quelques millions, on se trouve dans une situation auquel l'Europe n'avait pas été habituée, avec une immigration qui est une immigration qui vient de loin, avec d'autres cultures, d'autres savoir-faire. Bien sûr qu'ils peuvent s'intégrer, bien sûr que ça peut marcher et qu'on a les moyens de le faire pour le moment. Sur le plan rationnel, je suis tout à fait d'accord. Ma question, c'est comment on règle ce qui est de l'ordre, de l'émotion et de l'irrationnel. Voilà, je pense au Danemark, petit pays, c'est 5 millions d'habitants, des sociaux-démocrates qui choisissent de faire une politique de fermeture totale à l'immigration pour éviter d'avoir l'extrême droite au pouvoir. La Suède a énormément accueilli, énormément de Palestiniens. Elle se trouve aujourd'hui avec une coalition dans laquelle il y a l'extrême droite, avec des mouvements, vous avez vu l'Eurovision, avec des mouvements extrêmement hostiles des Palestiniens à l'Eurovision. Ça renforce l'extrême droite de façon massive dans un pays où c'est pas vraiment nécessaire. Et la Suède est effectivement désormais dans l'OTAN et totalement intégrée. Donc la question est difficile et compliquée. Où mettre le curseur? Comment le mettre? Quel discours tenir en même temps? Car ce que dit M. Rossignol est très vrai. Dès qu'on est sur le terrain et qu'on accueille et qu'on travaille, on voit toute la richesse que c'est. Et il a pris l'exemple de Calais, moi je suis calaisienne, pour avoir vu les deux, à la fois des gens merveilleusement généreux, et puis des gens qui sont pauvres et qui n'en peuvent plus, bah parce qu'on leur a piqué leurs tables et leurs chaises en plastique qu'ils avaient dans leur jardin et qu'ils avaient acheté avec bien du mal. Et cela, vous ne pouvez pas leur demander d'être forcément grands, beaux, généreux. Il faut passer énormément de temps à expliquer tout ça. Ou avoir l'effondrement du foncier dans certains quartiers de Calais à cause de ça. Ce n'est pas des gens méchants. Ce n'est pas des gens pas accueillants. C'est simplement des gens qui sont dans une extrême difficulté et qui ont tout autant besoin d'être accompagnés pour faire face à cela. Ce n'est pas simple.
Merci beaucoup Béatrice Gibelin parce que voilà, vous venez nous interpeller aussi sur ce que chacun d'entre nous, on parle de la Grande Europe, on parle de Bruxelles, mais il y a aussi ces actions sur le terrain et puis toute cette complexité que vous remettez au cœur du débat. Merci beaucoup. Alors si on parle d'émotion, à la fois cette émotion, vous le disiez, elle trouble parfois le discernement, elle est aussi l'empathie qui permet d'accueillir, donc c'est vrai que c'est compliqué. Je voudrais qu'on revienne sur un des points du pacte de migration et d'asile et de migration, le fichage des enfants. Parce que donc il y a ces camps de rétention et aujourd'hui, enfin à partir de ce vote, donc à partir d'aujourd'hui, à partir de 6 ans, les enfants vont être fichés, il y aura des empreintes digitales et ça va rentrer dans une base européenne. Cette question-là, elle sera soulevée parce que la Convention internationale des enfants, notamment l'article 3, pourrait s'opposer justement à ce point-là. Daniel Guéry, les enfants indissociables des parents avec lesquels ils sont venus. Donc est-ce qu'on peut décorréler ces deux situations?
Oui, donc je vous remercie. Je crois que là, on entre dans un aspect un peu particulier qui est l'aspect du droit et l'aspect des règles et du respect du droit. Et donc, on a la chance d'avoir un certain nombre de garde-fous. Et à ce propos, effectivement, les personnes vulnérables sont à regarder de très près. Vous citez les enfants, effectivement, mais aussi les femmes et les personnes en situation de handicap. La question du fichage est effectivement quelque chose de très grave. Et je pense que là, il y aura des difficultés pour ce faire. Moi, je voudrais souligner que... Un des rôles aussi que nous avons, c'est la place de la société civile organisée. Et vous avez souligné que j'étais vice-président du comité migration des ONG. Et les ONG qui sont dans ce comité sont toutes des ONG internationales, c'est-à-dire européennes minimum. Et c'est très important parce qu'on a un discours à tenir, une information à donner aux citoyens pour effectivement leur dire que la dimension politique est fondamentale, évidemment, pour organiser les États. Mais la question du respect du droit, la question de la vie relationnelle est très importante. Mmh. Et on peut effectivement positivement faire pression sur le respect des enfants, par exemple, mais j'ai été aussi très sensible à ce que vous avez dit, Mme Gibelin, parce que nous avons fait une recommandation auprès de tous les États, les ONG, en disant, attention, il est indispensable que la question de la migration ne soit pas... que les migrants ne soient pas des boucs émissaires des campagnes électorales. Mmh. Et c'est très important. Et pour ce faire, il est fondamental aussi que vous traitiez des pauvretés et des difficultés de tous. Ce n'est pas seulement les pauvretés des migrants, mais c'est aussi les pauvretés, justement, de ces personnes qui se sont faites voler leur table et leur chaise, comme vous l'avez dit, de manière concrète. Et c'est pas... Il faut traiter les deux points, et même, comme on l'a dit tout à l'heure, la question internationale. Nous sommes responsables, on peut faire quelque chose, et on a des outils à notre disposition, des outils humains, des outils légaux. Je suis relativement optimiste.
Le vote, notamment le 9 juin, on appelle nos auditeurs à se rendre aux urnes ou à demander une procuration. C'est le 9 juin, donc peut-être que vous serez sortis en famille. En tout cas, n'oubliez pas d'aller voter pour ces élections européennes. Merci beaucoup, Daniel Guéry. On vous entendait à l'instant, vice-président de la Commission des migrations des ONG, ancien président national international de l'Action catholique des milieux indépendants. Merci, Guillaume Rossignol, directeur de JRS France. C'est le service jésuite des réfugiés réfugiés qui accueille et accompagne des personnes en demande d'asile et réfugiés.
Et merci Béatrice Gilin également pour votre participation. Dans un instant, la seconde partie de Je pense donc j'agis. À tout de suite.